Monsieur Burnett, le jour du sabbat, pendant la fête, hein, il a noté que la Pâque et les jours saints et le sabbat tombent les mêmes jours de la semaine que en 31 de notre époque. Pour la première partie du sermon, je voudrais prendre le temps d'examiner ce qui s'est passé cette année-là et de faire cela pour mettre la scène pour autre chose qui allait se passer. Quand vous essayez de rassembler les quatre évangiles, il y a beaucoup de détails, c'est difficile de tourner ici et là entre les quatre évangiles. Donc je vais résumer brièvement et vous raconter une histoire. Et j'aurai quelques citations des Écritures, mais je ne vais pas vous demander de vous y référer. De manière, ce qui est plus important, je voudrais que vous personnalisez ce que nous allons dire, ce que nous allons voir ensemble. Essayez de vous mettre dans le tableau. J'aimerais vous demander de vous imaginer vivre en 31 de notre ère. Vous êtes l'un des 12 disciples. Vous êtes l'un des 11 disciples. Vous ne voulez pas être Judas, ça c'est une autre histoire. Mais imaginez-vous comme l'un des 11 qui ont marché avec Jésus, qui ont été enseignés par lui pendant 3 ans et demi. Ça aurait été comment pour vous d'avoir été là, au milieu de tout cela, témoin de tout ce qui s'était passé? Plus spécifiquement, j'aimerais vous demander d'imaginer ce que ce jour, ce sabbat, pendant la fête des pains sans levain, aurait été pour vous. Où est-ce que vous seriez? Quelles auraient été vos pensées? Quel aurait été votre état spirituel, mental? Votre état spirituel et mental? Probablement, vous auriez eu du mal à dormir ces derniers temps. D'après tout ce qui s'était passé. Au réveil, vous aviez probablement trouvé que vos pensées étaient remplies, votre esprit s'emballait, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que vous étiez assis chez vous aujourd'hui, dans votre maison, quand vous avez pensé à la semaine et demie écoulée, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, comment ces choses vous ont affecté, vous avez fait une chevauchée émotionnelle et spirituelle en montagne russe. Des hauts et des bas. À peu près tout ce que vous attendiez n'a eu que des rebondissements inattendus. Rien ne s'est passé comme vous le pensiez. Parfois, vous avez été ravi, excité, d'autres fois découragé, effrayé. Parfois, vous vous sentiez probablement très connecté à vos amis. Parfois, vous vous demandiez à qui vous pouviez faire confiance. Pourriez-vous même vous faire confiance? Alors que vous réfléchissez à cela, votre esprit remonte il y a 10 jours. Lorsque vous avez vu des gens, des foules de gens affluer de tout Israël vers Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Mais comme vous étiez avec Jésus, il était clair que des foules nombreuses, plus que normales, se trouvaient là, à Jérusalem. Et vous suivez. Il y avait des sur le chemin de Jéricho à Jérusalem. Tout le monde parlait de Jésus. Viendra-t-il à la fête? Était la question sur toutes les lèvres. Sur les lèvres des principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et eux, ils avaient une autre question. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Qu'est-ce qu'on doit faire de lui? 6 jours avant la Pâque, vous étiez arrivé avec lui à Béthanie, un petit village juste au-dessus du mont des Oliviers, à quelques kilomètres de Jérusalem, où se trouvait Lazare. Vous avez seulement découvert plus tard que les ennemis de Jésus complotaient également de tuer Lazare. Pourquoi? Parce qu'il avait été ressuscité. Et en conséquence, beaucoup de gens suivaient Jésus. C'est pour ça qu'il y avait des foules qui le suivaient. Vous étiez là, au mont des Oliviers, lorsque Jésus a envoyé chercher un âne. Et quand l'âne est arrivé, il est monté et c'est ainsi qu'il est entré à Jérusalem. Accomplissant Zacharie chapitre 9, verset 9, Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur une âne. Les foules se sont déchaînées, une très grande multitude, allant devant lui, enlevant des robes et des vêtements d'extérieur, les déposant sur la route. D'autres coupaient des branches d'arbres, les déposaient devant lui. Ils découpaient les feuillages des branches et les mettaient devant lui, pour que les pieds de son âne n'auraient pas à toucher terre. Ça, c'était un honneur généralement accordé au roi et au prince. Mais c'est comme ça que les gens le voyaient. Ils criaient « Hosanna !» au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut. Hosanna veut dire, ça veut dire sauver, sauver maintenant. Et il y avait une excitation, une électricité dans l'air. Après tout, on le reconnaissait comme le roi, le sauveur. Et le moment de la délivrance de la nation par le Messie devait être proche. Vous avez entendu des pharisiens lui dire, tu devrais réprimer tes disciples. Et il a dit, si ceci se taisait, les pierres crieraient. Vous aviez ça à l'esprit, toute la ville bourdonnait. Et quand certains demandaient, qui est-ce? La multitude répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth de Galilée. La foule était tellement prise par cela que même les pharisiens ont dit, « Regardez, le monde entier le suit. » Vous aviez des yeux grands ouverts à tout cela, et vous pensez probablement, « Oh là là, c'est merveilleux, mais inattendu, que se passe-t-il » Je dis cela parce que Jean écrit plus tard, il a dit, « Ses disciples n'ont pas compris ces choses au début, mais quand Jésus a été glorifié, alors, ils se sont souvenus que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'il lui avait fait ces choses. Plus tard, ce jour-là, vous étiez avec lui quand il est entré au temple. Et pour la deuxième fois, tout comme il avait fait 3 ans plus tôt, au début de son ministère, il a chassé avec colère les changeurs de monnaie, tous ceux qui y achetaient, vendaient. Ils étaient revenus. Et il proclamait, « Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais tu en as fait, vous en avez fait un repaire de voleurs. » Vous vous souvenez des aveugles et des boiteux qui affluaient vers lui, et il les guérissait. Des gens qui voyaient et qui marchaient, qui avaient été estropiés. C'est pas étonnant que les enfants chantaient de merveilleuses choses qu'il avait faites. Mais ensuite, vous avez vu les principaux sacrificateurs et les scribes l'affronter avec colère. Ce n'était pas la première fois, bien sûr, vous l'avez déjà vu, mais ces affrontements allaient devenir plus fréquents et plus tendus à travers les prochains quelques jours. Vous vous souvenez comment il enseignait chaque jour dans le temple? Et alors que le groupe de chefs religieux qui essayaient de trouver des moyens pour le détruire, ils ne pouvaient pas. Parce que tout le monde était attentif à l'entendre. La foule qui était suspendue à chaque parole qu'il prononçait. Il enseignait constamment à tout le monde, à chaque occasion. Parfois de longs discours. Vous vous souvenez comment un jour, alors qu'il parlait d'un certain nombre de principes spirituels profonds, il a également révélé qu'il était troublé de savoir ce qu'il allait arriver. Et il a également expliqué comment il allait bientôt mourir. Simplement, ce n'est pas parce qu'il enseignait quotidiennement que tout le monde le croyait. Il y en avait qui ne le croyaient pas. Et vous étiez au courant qu'il y avait même parmi les chefs religieux qui croyaient, mais ils refusaient de l'admettre hein, parce qu'ils avaient peur d'être chassés des synagogues. Et ils aimaient être loués par les hommes, ils préféraient être loués par les hommes que par Dieu. Et vous avez vu, Jésus a perçu cela, et il a parlé très fortement de la nécessité de croire en lui. Le lendemain, vous promenant avec lui sur le chemin de retour vers le temple, quand vous l'avez vu s'arrêter près d'un figuier, et ne voyant aucun fruit dessus, il a dit, plus aucun fruit ne poussera sur toi. Et immédiatement, commençait à mourir, ce figuier. Puis,
Il s'est tourné, il vous a regardé, ceux qui étaient là, et dit, « Si vous aviez la foi, et si vous ne doutez pas, vous pouvez dire aux montagnes, « Déplacez-vous, jetez-vous dans la mer, et ce sera fait. » Tout ce que tu demanderas par la prière en croyant, vous le recevrez. Puis il s'est retourné, il a continué vers le temple. Et là, vous étiez là, bouche bée, est-ce que je peux vraiment faire ça? Qu'est-ce qu'il venait dire? Vos pensées se sont rapidement interrompues lorsque, le suivant dans le temple, vous avez vu ses ennemis là, à l'attendre, le défiant, exigeant de savoir par quelle autorité il agissait. Ensuite, vous vous étiez émerveillé de l'entendre répondre, et il leur a fermé la bouche avec une question. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou de l'homme? Et vous les avez vus se tortiller alors qu'ils se regardaient rapidement l'un l'autre pour décider comment ils devaient répondre. Ils étaient piégés dans les deux sens. Et vous saviez que eux, ils savaient qu'ils mentaient quand ils ont dit « Nous ne savons pas, ils mentaient ». Ensuite, vous avez été étonnés quand il a encore défié les principaux sacrificateurs et les pharisiens avec deux paraboles, les deux fils et les vignerons méchants, quand il leur a dit directement que les publicains et les prostituées entreront dans le royaume avant vous. Oh là là, les yeux de tout le monde étaient grand ouvert, quand vous avez vu à quel point ils étaient en colère, et c'est seulement parce qu'ils craignaient la multitude qu'ils n'ont pas, se sont pas saisis de lui immédiatement. Vous avez regardé les pharisiens et les hérodiens essaient de le piéger, avaient des questions sur les taxes à César, et il les a arrêtés secs. C'était humiliant pour eux. Vous avez vu les sadducéens essayer de le piéger avec des questions sur la résurrection. Et en écoutant sa réponse, et en regardant autour de lui, vous avez vu des multitudes et ils étaient étonnés de son enseignement. Chaque fois que quelqu'un croyait l'avoir piégé, pris au piège, des questions vous laissaient penser, moi je n'ai aucune idée comment je pourrais répondre à cela. Et vous l'avez vu instantanément revenir avec une réponse brillante. Ensuite, c'était le tour de Jésus de passer à l'offensif. Il leur a posé une question simple. Ça semblait être une question simple. Christ, de qui est-il le Fils, le Messie? Il est le Fils de qui? Et ils ont répondu immédiatement, le Fils de David. Il a ensuite cité le psaume 110. Il a cité le psaume 110 et il a posé la question, si David l'appelait Seigneur, comment est-il son Fils? Et personne n'a pu lui répondre un mot. Et désormais, plus personne n'osait le questionner. Il se rendait compte qu'il n'allait pas gagner ce match-là. Puis, au milieu de tous ses disciples, les multitudes, vous avez regardé et vous avez entendu, alors que Jésus a accusé chaudement les scribes et les pharisiens, un point, point après point. Cette fois, il les appelait hypocrites. Et à d'autres moments, des guides aveugles, des tombes blanchies, remplies d'ossements d'hommes, des serpents, bandes vipères. Il n'a pas mâché ces mots, mais tout ce qu'il a dit était vrai. Vous ne pouvez pas imaginer que personne qui l'entendait n'était, tout le monde était abasourdi. Mais tout ce qu'il faisait et tout ce qu'il disait était magnifique. Tout ce que vous l'avez entendu dire était remarquablement brillant. Vous émerveillez devant les mots puissants, la logique et le raisonnement puissant, une réfutation parfaite des arguments lancés contre lui, et il le faisait tout seul. Vous étiez là, bouche bée, à regarder, vous ne pouvez pas contribuer. Vous étiez là, positif de son côté, mais personne ne le conseillait. Il n'avait pas besoin de quelqu'un d'autre pour écrire ses discours. Il faisait tout ça tout seul, avec un esprit si brillant.
Vous aurez pu facilement vous retrouver à regarder le va et le vient. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche et chaque fois qu'il commençait à parler, vous avez envie de vous tourner vers quelqu'un pour dire « Vous avez entendu ça ?» Jour après jour. Chaque jour apportait de nouvelles surprises. Chaque soir, on se demandait ce qui arrivait le lendemain. En rentrant chez vous le soir, en marchant avec Jésus, vous aurez pu vous dire les uns aux autres « Ah, quelle journée merveilleuse! Est-ce que vous avez vu à quel point ils étaient furieux ?» Ils avaient vraiment la bouche bée. Et, Jésus, tu as vraiment eu aujourd'hui. Hein? Votre quêté, votre équipe, gagné. Vous aviez le sentiment, comme M. Franks l'a dit l'autre jour, une révolution commençait. Et vous saviez que vous étiez de bon côté. Après un discours aux scribes et aux pharisiens, il s'est assis en face du trône, le tronc, du trésor. Il a regardé les gens mettre de l'argent dans le tronc. Et si vous êtes parmi des disciples, il l'appelait, il a attiré votre attention, il a dit, vous voyez cette veuve, elle a plus mis que tout le monde. Et il a expliqué, parce que eux, ils ont donné de leur abondance qu'ils avaient. Mais elle, pauvre comme elle est, elle a donné tout ce qu'elle avait. C'était comme ça. Quand Jésus enseignait, en pensant à toutes les choses qu'il avait dites, il vous obligeait de revoir le monde, de voir le monde autrement. Il ajoutait d'autres valeurs, d'autres perspectives à la vie, une meilleure compréhension. Et il vous détachait de ce qui était superficiel pour aller profondément dans la vie. Ensuite, il a quitté le temple et vous marchiez avec lui sur la montagne des Oliviers. Certains des disciples ont montré à Jésus le temple. Ils ont regardé en arrière, juste en face, au-dessus d'une petite vallée. Ah, comme il était beau ce temple. Et il était. C'était un bâtiment, une construction magnifique. Une belle chose à voir. Mais il a choqué tout le monde en disant, ce que vous voyez, les jours viennent où il n'y aura pas une pierre sur une autre. Tout cela va être complètement démonté. Mais là, ça suscitait des questions. Quand? Comment est-ce qu'on peut savoir? Quels seront les signes de ton avènement et de la fin de l'âge? Alors, il s'est assis, il a parlé longtemps de toutes sortes de choses, d'événements spécifiques qui se produiront, des conditions dans le monde, des conditions spirituelles. Et tout cela menait au retour du Fils de l'homme. Et il parlait avec intensité pour vous dire de veiller et d'être prêt. Mais quand il a terminé, il a dit encore une fois à tout le monde, après 2 jours, ce sera la Pâque, et je serai livré pour être crucifié. Cela donnait à réfléchir, mais d'une certaine manière, ça semblait contredire tout ce que nous avons vu, tout ce qui s'était passé. Puis la Pâque était venue. Tant de choses ont été dites et faites ce soir-là, c'est difficile de se souvenir de tout. Mais quand Jésus a dit que l'un de nous allait le trahir, ce soir-là, cela a assombri toute la soirée. Alors, dans notre embarras, nous avons commencé à nous disputer pour savoir qui serait le plus grand dans le royaume. C'est stupide. Mais nous sommes tombés dans ce panier si facilement. Heureusement, Jésus a été très patient. Il nous a corrigés. Et à la fin, il nous a dit que nous allions nous asseoir sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Mais ensuite, il nous a dit, on était encouragés là, mais il nous a dit que cette nuit même, nous allions tous trébucher et nous disperser. Pierre se disputait avec lui, et même quand Jésus lui a dit qu'avant que le coq ne chante 2 fois, ce soir, Pierre le renierait 3 fois. Pierre s'est fâché. Il a dit que même s'il devait mourir avec lui, il ne renierait pas. Et nous l'avons tous dit cela.
c'est ce que nous avons tous ressenti. Pauvre Pierre, tout ce que Pierre faisait et dit ce soir-là était faux. Mais ce n'était pas seulement lui. Nous ne pouvions tout simplement pas imaginer, après toutes ces années et la façon dont nous nous sommes ressentis, nous ne pouvions pas imaginer renier Christ. Nous étions prêts pour tout ce qui allait arriver. Nous pensions, du moins. Le reste de la soirée et le lendemain sont presque trop douloureux pour y penser. Nous avons couru. Nous l'avons laissé. Et je ne peux même pas penser à ce que nous avons vu le lendemain. Mais tout d'un coup, c'était fini. Il était parti, mort, enterré. Ça, c'est il y a 3 jours. C'est juste à peu près là où je peux vous amener, en me basant sur les évangiles, car très peu de choses ont été écrites à propos des 3 jours et 3 nuits quand Jésus était dans le sein de la terre. Jeudi, le jour saint, vendredi et le sabbat. Il n'y a qu'une brève description de Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, qui achetait et préparait des aromates avec lesquels ils allaient oindre ou embaumer le corps de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 jours? Cela est laissé à notre imagination. Mais basé sur ce qu'ils avaient vécu auparavant, 6 jours de drame, avant la Pâque, puis les événements étonnants de la Pâque et de la crucifixion, je ne peux pas imaginer autre chose que les disciples étaient choqués. Pendant ces 3 jours, leur monde avait été complètement bouleversé. Comment imaginer, comment pensaient-ils de tout cela? Non seulement ce qui s'était passé, mais ce qu'ils attendaient. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Où allons-nous maintenant? Je dois penser qu'en cet après-midi de sabbat, aujourd'hui, pendant la fête des pains sans levain, où qu'ils soient à ce jour-là, comme nous le sommes maintenant, leurs sentiments allaient de la confusion au déprime, découragé. C'est pénible pour vous et moi d'étudier et de méditer profondément la mort de Jésus. D'étudier et de réfléchir profondément à ce que Jésus a subi, comment il est mort. C'est une détresse d'y penser, mais si vous aviez été là pour le voir, j'ai déjà vu des gens mourir, mais n'ai jamais vu quelqu'un crucifié, et je ne le veux pas. Mais c'est la dernière fois qu'ils avaient vu Jésus. Si vous étiez là, quelles auraient été vos pensées ce sabbat, en l'an 31 de notre ère? Qu'est-ce que vous seriez en train de dire à Dieu? Qu'est-ce que vous auriez dit les uns aux autres? J'ai passé beaucoup de temps à essayer de recréer dans une certaine mesure. Je fais de mon mieux de dresser la scène. Ce qu'ils avaient à leur esprit, dans la nôtre, pour que nous puissions mieux comprendre ce qui allait se passer ensuite. Voyez-vous, le tour de montagne russe émotionnelle n'était pas encore terminé. Si vous étiez là ce sabbat en 31 de notre ère, vous n'étiez qu'à quelques heures d'un autre événement bouleversant que vous n'avez pas vu venir. Ce soir, le soleil se couche à 19h05 à Jérusalem. Il est 13h20 ici. Quelques heures. Seulement quelques heures. Si vous avez été là, il y a un événement qui allait se passer, mais vous n'étiez pas préparé pour cet événement. Vous n'avez pas l'esprit. Vous ne le voyez pas venir, cet événement. Vous auriez dû, maintenant, c'est clair, mais à ce moment-là, non. Vous ne vous rendiez pas compte, ce jour de sabbat, comment cet événement allait aller de pair avec tout ce qui s'était passé 3 jours auparavant, au moment de la crucifixion, et la nuit avant la Pâque. Et tout cela allait créer un tout qui va complètement changer le reste de votre vie. vers le coucher du soleil, alors que ce sabbat touchait à sa fin. L'un des événements les plus importants dans l'histoire humaine s'est produit. Un tremblement de terre a secoué la ville. Un ange du Seigneur est descendu du ciel vers le tombeau où Jésus était enterré. Il a roulé la pierre qui avait été placée là pour sceller le tombeau, et Dieu, fidèle à sa parole, a rendu la vie au Fils de l'homme, et il est ressuscité. Nous ne savons que peu de choses concernant ce qui s'est passé immédiatement après. Personne n'était là, sauf pour certains gardes. Et il semble qu'ils n'aient rien vu, parce que Matthieu nous dit que quand ils ont vu l'ange, qu'ils tremblaient de peur et qu'ils sont devenus comme des morts. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne sais pas. Probablement c'est tout près de... Ils étaient craintifs à mourir, à en mourir. On pourrait se demander, où étaient tous les disciples? Où étaient tous les disciples? Est-ce qu'ils ne se rappelaient pas que Jésus avait dit 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre? On aurait imaginé que sitôt qu'il était enterré, on aurait commencé le compte à rebours de la résurrection, jusqu'au coucher du soleil. Hein? Premier jour passé, deuxième jour passé, troisième jour. On aurait pu imaginer, dans l'après-midi du sabbat, qu'ils étaient en train de vérifier l'état les uns et les autres. N'oublions pas d'être au tombeau tôt ce soir. Nous voulons pouvoir bien voir quand il sera ressuscité. C'est l'heure, c'est le moment, on ne peut pas être en retard. Nous sommes presque à la fin des 3 jours et des 3 nuits et nous ne voulons pas manquer ça. Non? Ils l'avaient oublié, apparemment. Personne n'était là. Personne n'était là pour le voir. Il n'y avait pas de comité d'accueil, rien de prévu. Mais le lendemain matin, votre monde allait changer de nouveau. Ce n'était que 10 heures plus tard. Tôt le lendemain matin, quand il faisait encore nuit avant le lever du soleil, que les deux maris sont allés vérifier le tombeau, et l'ont trouvé vide. Elles ont été perplexes. Puis 2 anges sont apparus, et leur ont dit, « Pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts ?» Pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Il n'est pas là. Il est ressuscité. Et puis l'ange a dit, rappelez-vous comment il vous a parlé, ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée, disant, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des pécheurs, il doit être crucifié, et le troisième jour, il se lèvera à nouveau. Et là, c'est marqué, ah, elles se souvinrent de ses paroles. Mais elles avaient oublié. Là, elles se sont souvenues. Tout le monde avait oublié, bien que Jésus leur ait dit plusieurs fois. Mais ça n'avait pas pénétré en eux. Marie de Magdala a couru, elle a trouvé Pierre et Jean pour leur dire. Et eux, à leur tour, ils se sont mis à courir pour aller vérifier eux-mêmes. Ils ont cru ce qu'ils ont vu. Il était parti. Mais Jean a écrit plus tard, « Jusqu'à présent, il ne connaissait pas les Écritures qui devaient ressusciter d'entre les morts. » Ce n'est pas qu'ils n'avaient jamais entendu l'Écriture, ils étaient au courant, mais la pièce n'était pas tombée, ils n'ont pas eu la compréhension. Alors que la nouvelle s'est répandue, c'était difficile pour eux tous de croire à cela. Plus tard, Luc chapitre 24, quelques heures plus tard, sur la route d'Emmaüs, il leur a parlé, c'est une histoire intéressante, j'espère que vous prendrez le temps de tout lire. Dans Luc 24, commençons 33, verset 33. Il y avait une longue discussion et finalement ils se sont rendus compte que c'était lui. Et puis il a disparu. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est paru à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. C'est intéressant, n'est-ce pas? Il remonte au verset 31 et 32. C'était pendant le repas. C'était pendant le repas, quand ils rompaient le pain, qu'ils se sont rendus compte. Mais il y a un grand parallèle spirituel là. Christ est connu à nous spirituellement par le pain brisé, rompu de la Pâque. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous, saisis de frayeur et d'épouvante. » Ils croyaient voir un esprit et ils étaient terrifiés. Ça, ce n'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Tout d'un coup, il est là au milieu d'eux. Ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? » Parce que nous sommes humains et nous doutons, et nous tombons facilement dans ce qui est négatif. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un poisson rôti, un rayon de miel, et il en prit, et il mangea devant eux. Et il se montrait à eux comme chair et os. Il n'a pas mis le poisson dans sa bouche et s'est tombé par terre ensuite. Non, il y avait vraiment encore. Verset 41, « Dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. » C'était trop bon pour être vrai. Mais ils commencent à se convaincre maintenant. Verset 44, « Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Beaucoup de gens lisent les Écritures mais ils ne comprennent pas. L'esprit doit être ouvert. Qu'est-ce qu'il leur a expliqué? Qu'est-ce qu'il a expliqué de la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes? Il aurait pu expliquer la résurrection, remontant jusqu'à la Genèse. Il y a beaucoup de choses qu'il aurait pu leur expliquer, la prophétie, comment il était représenté dans l'offrande, l'agitation de la gerbe. Gardez votre droit là, dans Luc 24, et tournons quelques pages à Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 18, la première fois que Jésus montait dans le temple. Jean chapitre 2, verset 13, les Juifs prenant la parole lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, Jean a ajouté ceci après, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il leur avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et la parole que Jésus avait dite. Maintenant, ils croyaient. Arrêtons-nous un instant. Au milieu des événements qui vont avoir lieu, ces événements, est-ce que vous pouvez imaginer de passer de cette déprime spirituelle, émotionnelle, et puis là, vous arrivez à une réjouissance incroyable. Il est vivant, il est avec nous. Et il était là à leur enseigner, et il les encourageait, il les enseignait. Qu'est-ce que vous auriez pensé? Qu'est-ce que vous auriez ressenti si vous étiez là? Il leur avait dit, à la Pâque, vous allez pleurer, lamenter, et le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se transformera en joie. Je ne pense pas que nous pouvons comprendre la joie qu'ils avaient. Mais le rendre heureux, ce n'était pas son but principal. Ça, c'était un effet secondaire, ce n'était pas son but. Il voulait s'assurer que ce changement, que ça représentait un changement dans toute leur vie pour qu'ils puissent compléter l'œuvre qu'il allait leur confier. Revenons dans Luc 24. Luc 24, verset 46. Et il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » Qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. On va parler de verset 49 dans quelques semaines au moment de la Pentecôte. Mais il leur a dit, il fallait que ça se passe comme ça. J'ai dû souffrir, il fallait que je meure, il fallait que je ressuscite. Et tout cela est lié à la prédication de l'Évangile. La prédication de l'Évangile, le repentir, le pardon des péchés. Tout cela, c'était lié à ses souffrances, sa mort, sa résurrection. Et avec le passage du temps, ils ont compris de plus en plus comment cela a fonctionné tous ensemble. Je parle de la résurrection du Christ. Et demain, les gens du monde vont être tous impliqués à la résurrection. La Bible ne dit nulle part de célébrer la résurrection. Nous n'avons pas de jour saint. Nous ne commémorons pas la résurrection comme fait le christianisme traditionnel. Mais simplement parce que ce n'est pas parce que le christianisme l'a corrompu que nous devrions le minimiser. Les apôtres n'ont pas minimisé la résurrection de Christ. Vous vous rappelez du premier sermon donné dans l'Église du Nouveau Testament, donné par Pierre le jour de la Pentecôte. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Verset 22. Après que Pierre leur ait dit que ce qu'ils voyaient était l'accomplissement de la prophétie de Joël. Verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. C'est impossible. Nous ne pouvons pas expliquer comment on ressuscite quelqu'un des morts. Comme M. Franks a dit, lors du jour saint, on ne peut pas arrêter la révolution. C'est impossible. Et maintenant, là, il comprenait. Ce n'est pas Pierre qui s'évade, c'est Pierre qui prêche hardiment. Acte 25, car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. » Aussi, et ça, cette connaissance devrait nous aider à ne pas être ébranlé. « Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et ma chair reposera avec espérance. » Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. On pourrait parler de ça pendant longtemps. on remettra ça pour un autre jour, mais ils ont continué en citant, il a continué en citant David, et maintenant ils ont compris la signification de cela. Homme, frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir l'un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Il est vivant et il œuvre. Il est à l'œuvre. Ce que vous voyez là, c'est parce que Jésus a été ressuscité et qu'il agit. Chapitre 4, verset 33, c'est... Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Pourquoi est-ce que c'était si important? Parce que les gens vivant à cette époque comprenaient que des milliers de personnes avaient été crucifiées par les Romains. Combien d'entre eux est-ce que Dieu avait ressuscité? Si nous pensons à Actes chapitre 17, l'Évangile commence à se répandre dans les régions des païens, Paul est à Athènes, en Grèce, et il discute avec des philosophes, un autre milieu, un tout autre milieu religieux. C'est marqué à un moment donné, il semble proclamer des dieux étrangers parce qu'il leur a prêché Jésus et la résurrection. Verset 30. Vers la fin de son message, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve, certaine, en le ressuscitant des morts. La résurrection n'est pas moins que la garantie du plan de Dieu, l'accomplissement du plan de Dieu. Il a dit, il faut y penser, hein. Vous avez à y penser et à vous repentir. L'un des passages les plus connus dans 1 Corinthiens 15, parlant de la résurrection des justes, 1 Corinthiens 15, le chapitre de la résurrection, on l'appelle parfois, 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. On doit commémorer cela. Ça, nous avons commémoré et nous rappelons cela au moment de la Pâque. Il a été, rappelons-nous, il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Ce sont des témoins vivants. On ne peut pas le nier. Dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que ça mettait la scène pour ceux qui suivaient, verset 12. Or, si on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Les Sadducéens le croyaient qu'il n'y ait pas de résurrection, et peut-être même à l'église de Corinthe, il y avait des gens qui avaient des idées bizarres. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. et votre foi aussi est vaine. C'est sans valeur. Oui. Oui. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. La vie n'est rien. On vit, on meurt, c'est fini. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Quel est notre espoir? À la Pâque, Jésus a dit à ses disciples, « Parce que je vis, vous vivrez aussi. » Un peu plus tôt, il leur avait dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. » Ça, c'est notre espoir, n'est-ce pas? Paul a dit, « Si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, de même, Dieu amènera avec lui ceux qui se sont endormis en Jésus. » Si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, il faut le croire. La résurrection de Christ est notre garantie, notre assurance. Maintenant, comment relier tout cela avec les leçons de la fête des pains sans levain? Je voudrais souligner une déclaration dans Jean chapitre 20, qui peut être négligée parfois. Jean 20, vers la fin du chapitre, nous lisons l'exemple de Thomas. Thomas est arrivé tard dans les pièces quand Jésus a dit, leur a paru, quand ils ont dit à Thomas, « Nous avons vu le Seigneur. » Il ne les a pas cru. En fait, il est même allé à dire, « À moins que je ne voie dans ses mains l'empreinte des clous, et que je mette mon doigt dans l'empreinte des clous, et que je mette ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, Christ réapparaît. Jean chapitre 20, verset 27. Puis il dit à Thomas, « Hé, Thomas, viens. » Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Apparemment, Thomas l'a fait. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Puisque tu m'as vu, tu as cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. On peut lire cela et dire, « Ça, c'est Thomas, ça, c'est quelqu'un qui était avec Jésus il y a 2000 ans. » Mais qu'en est-il de tous ceux qui ont suivi, que Dieu allait attirer, qui n'auraient pas l'occasion d'être un témoin oculaire, qui ne pourraient pas voir le Jésus-Christ ressuscité, y compris nous, vous et moi. Notons le reste de ce que les versets suivants. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles, qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais des choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Nous ne l'avons pas vu. Nous ne sommes pas des témoins oculaires, nous n'étions pas là. Tout ce que nous pouvons faire, c'est imaginer. Croyez-vous? Je crois que oui. Mais c'est une question importante, parce que ça a tout à voir, sa résurrection a tout à voir avec de savoir s'il était le Fils de Dieu ou pas. Et notre croyance change notre vie. Et quand je parle de vie, je parle de vie éternelle, mais aussi la vie que nous menons maintenant. Et la façon de vivre nos vies maintenant. J'ai posé la question au début du sermon de nous imaginer là, à l'époque, qu'est-ce qu'on serait en train de penser ou dire. Retournons ça. Imaginez qu'ils étaient avec nous maintenant. Imaginons que les disciples sont ici avec nous pendant la fête des pains sans levain. Qu'est-ce qu'ils penseraient? Qu'est-ce qu'ils nous diraient? Qu'est-ce qu'ils voudraient nous dire? Je ne pense pas qu'on a vraiment à poser des questions là-dessus. Je ne pense pas que c'est possible de mieux le dire que ce que nous lisons dans Romains chapitre 6. Romains 6, le verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce qu'on peut regarder la vie et dire, je peux toujours être pardonné. Dieu peut toujours me pardonner. Sa grâce est tellement formidable. Est-ce qu'on peut se servir de ça comme excuse? Peut-être qu'il y avait d'autres philosophies qui flottaient dans l'air à l'époque. Mais c'est pas possible de continuer dans le péché. On ne peut pas continuer dans le péché. Loin de là, verset 2. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Quand nous étions baptisés, nous étions figurativement dans le même endroit. Nous allions être crucifiés spirituellement, enterrés. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Pensez au moment de votre baptême. Vous a accepté que quelqu'un allait vous submerger brièvement. On ne peut pas survivre pendant très longtemps sous l'eau. Ça serait un tombeau. Mais quand vous étiez baptisé, cela symbolisait la vieille personne, le vieil homme, qui mourait. Et ensuite, vous sortiez de l'eau. On vous sortait de l'eau. Et il y avait une attente que, comme Christ était ressuscité des morts, et il est revenu à la vie comme l'esprit, un être spirituel, il est monté vers son Père. Quand nous sortons de l'eau, le tombeau liquide, nous devons marcher d'une nouvelle vie. On est toujours physique, mais nous devons commencer une nouvelle vie, une vie spirituelle. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Est-ce que nous péchons parfois? Oui. Mais nous ne devons pas être esclaves du péché. Les esclaves font tout ce que disent le maître. Nous n'allons pas obéir au péché comme maître. Nous n'allons pas être esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Nous avons été libérés du péché. Pourquoi est-ce qu'on y retournerait? Verset 8. Or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Il y a une raison pour laquelle nous sommes baptisés, une raison pour laquelle nous marchons dans cette voie de vie, parce que c'est une marche qui nous amène vers la vie éternelle. L'accomplissement du plan de Dieu, la famille de Dieu. Qu'est-ce qui nous donne la foi? Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, de cette même façon, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Vivant pour Dieu, nous voulons être vivants à Dieu, pour Dieu, en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc, suite à tout ce qui a été dit jusque-là, la conclusion, donc, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Cette fête nous rappelle cette vérité, et l'importance est fixée dans notre esprit. Il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous. Qu'est-ce que nous devons faire suite à ça? Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Chaque année, chaque jour, nous devrions nous présenter devant Dieu et nous rappeler qu'en étant vivant de mort que vous étiez, nous étions morts. Mais Dieu nous a rendu la vie. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Il nous a sauvé la vie. Nos membres doivent être des instruments de justice. D'aller à Dieu chaque jour, de dire, aide-moi à te servir, à donner. Aide-moi à vivre ma vie comme instrument entre tes mains pour faire ce qu'il faut, pour être une bonne personne, pour être l'instrument que tu veux voir en moi. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous pouvez lire cela comme, est-ce que c'est un commandement, une instruction, ou est-ce que c'est une promesse? Je pense que c'est les deux. C'est une instruction. Ça, c'est une instruction. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Ça nous rappelle d'un principe qui remonte à Genèse chapitre 4. Genèse 4, verset 7. Quand Dieu a parlé à Caïn, il a dit, « Certainement, si tu agis bien, tu enlèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. » Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. On peut dominer le péché avec l'aide de Dieu. Il ne faut pas permettre au péché d'avoir autorité sur nous. Et puis, il y a une promesse de la part de Dieu que si nous suivons Dieu, le péché n'aura pas le pouvoir sur nous, ne sera pas notre maître. À travers l'aide de Dieu, tout ce qui peut être changé, nous pouvons tout surmonter. Si on avait été là, traversé tout cela avec les disciples, si on avait été témoin de tout cela, ça aurait complètement changé notre engagement, notre zèle, notre engagement, ça aurait changé nos vies. Serait resté avec nous le restant de nos jours, comme ce fut le cas pour les disciples. Mais parce que nous n'étions pas là, est-ce que ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir le même engagement à cette cause, cette grande cause? Non, ça ne veut pas dire cela. Ce n'est pas nécessaire d'y avoir été en personne. Mais ça veut dire que nous devons y réfléchir. Nous devons prier à ce sujet. Nous devons grandir dans notre compréhension au point que nous pouvons faire l'écho des paroles de Paul qu'il a écrit aux Philippiens. Terminons avec Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 7. Paul regarde en arrière dans sa vie, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte. » À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Puissions-nous le connaître. Puissions-nous connaître la communion de ses souffrances et la puissance de sa résurrection, afin d'être conformés à sa mort comme sacrifice vivant, comme il était, et par cela, un jour, atteindre pour nous-mêmes la même expérience que Jésus-Christ a eue. À la fin de ce sabbat, en l'an 31, la résurrection d'entre les morts.